Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau Flash Éclair du jour. À la une de la semaine du 12 avril, conflit, le point sur la situation à Gaza et en Ukraine, marathon de Paris 2024, le bel hommage au sergent Gaucho et le focus de la semaine sera consacré à la dernière stratégie de défense nationale du Canada. Tout d'abord, on commence par la guerre Russie-Ukraine avec un chiffre, 127 millions d'euros. C'est le coût des équipements militaires vendus à l'Ukraine par les États-Unis. Cette somme servira à réparer et mettre à niveau des systèmes de missiles Hawk pour accroître la capacité de l'Ukraine à se défendre contre les missiles et les attaques aériennes des forces russes. Ce sera donc de l'entretien et de la mise à niveau. Rien de quoi modifier l'équilibre militaire fondamental dans la région, selon les États-Unis. D'ailleurs, 127 millions d'euros, un chiffre impressionnant, mais qui reste relativement dérisoire en comparaison des 60 milliards de dollars toujours bloqués au Congrès américain. À noter que les affrontements russes continuent dans le sud de l'Ukraine, avec deux sites énergétiques ukrainiens touchés par la Russie. Après l'Ukraine, on passe à la bande de Gaza avec la version navale du Dôme de fer déployé. Ce mardi, Israël a utilisé pour la toute première fois ce système pour abattre un drone en provenance de la mer Rouge. La cible était la ville portuaire d'Eilat au sud d'Israël, une cible fréquente des rebelles chiites houthis du Yémen soutenus par l'Iran en soutien au Hamas. Le Cédôme a donc intercepté pour la première fois un drone qui s'approchait de l'Est. Ce nouveau dispositif utilise les mêmes intercepteurs que le Dôme de fer basé à terre et qui, lui, lutte contre les roquettes et les drones de courte portée. Des intercepteurs similaires mais des vecteurs différents. En effet, pour occuper l'espace maritime, des bateaux lance-missiles dont des corvettes SAR de classe 6 ont été positionnés dans la mer Rouge. Ces dernières permettent d'affronter les menaces régionales grâce à leur capacité défensive et offensive importante. D'ailleurs, ce n'est pas la seule nouvelle importante de la semaine concernant le conflit à Gaza. C'est une actualité de dernière minute. Selon les renseignements américains, une attaque massive de l'Iran contre Israël est imminente. La question n'est plus de savoir si cette attaque va se dérouler, mais quand, selon une source anonyme proche des renseignements américains. Pour rappel, le 1er avril dernier, Israël avait attaqué le consulat iranien de Damas en Syrie. Cette attaque avait fait 16 morts, dont l'un des principaux généraux de la force Al-Quds iranienne. Suite à cette attaque, le guide suprême Al-Khamenei avait alors juré à plusieurs reprises que le régime sioniste serait puni. Si cette menace se confirme, cela augmenterait la tension au Proche-Orient et la ferait monter d'un cran supplémentaire. Les États-Unis pourraient alors défendre Israël en cas d'attaque. Et d'ailleurs, le ministre israélien des Affaires étrangères a prévenu: si l'Iran mène une attaque depuis son territoire, Israël répondra et attaquera l'Iran. Affaire à suivre. Et on reste en Méditerranée avec une actualité historique, si l'on peut dire. Pour la première fois, le groupe aéronaval français va être placé sous contrôle opérationnel de l'OTAN. L'annonce a été faite hier jeudi 11 avril par l'état-major des armées. Ce déploiement se fait dans le cadre d'une mission de 15 jours, du 26 avril au 10 mai en Méditerranée. C'est donc l'ensemble du groupe aéronaval français, qui comprend notamment le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle et son escorte, qui seront sous le commandement de l'état-major maritime Strike for NATO. À la tête de cette force, on retrouve un vice-amiral américain. Côté français, on y voit une opportunité. Cette mission nous permet de rentrer dans le rang en se mettant au même niveau que nos alliés. On va aussi beaucoup apprendre. Il faut construire un savoir-faire mutuel, témoigne le contre-amiral Mallard, commandant du groupe aéronaval français. Pour rappel, un peu de chronologie, la France est membre fondateur de l'OTAN créée en 1949 et elle en avait quitté le commandement militaire en 1966. Mais depuis son retour en 2009, la France n'avait pas intégré le groupe des plans nucléaires de l'Alliance. C'est donc une véritable première pour la marine nationale française. On poursuit avec la belle histoire de la semaine, celle des 10 sous-officiers du 19e régiment du génie de Besançon. L'édition 2024 du Marathon de Paris a vu de nombreux exploits, dont celui des militaires de l'armée de terre. Les 10 sous-officiers ont couru pour honorer leur frère d'armes, le sergent Baptiste Gaucho, mort en août 2023 en Irak. Ils ont couru en treillis, avec 6 kilos dans leur sac et 42 km bouclés en moins de 5 heures. Âgé de seulement 26 ans, le sergent Gaucho avait perdu la vie dans un accident de la route alors qu'il était en opération en Irak. Ce dernier était présenté comme un soldat passionné et volontaire et s'était notamment illustré lors de missions en Guyane et à La Réunion. La petite cerise sur le gâteau, c'est la médaille de la Défense nationale échelon argent qu'il avait décrochée en 2020. Ainsi, lors du marathon de Paris édition 2024, l'émotion était forte à la ligne d'arrivée. Il y avait en effet 10 coureurs qui étaient présents, mais il y en avait aussi 10 autres qui étaient venus en soutien. D'ailleurs, loin de se cantonner à un marathon, cet exploit solidaire a aussi permis de récolter plus de 7 500 € grâce à une cagnotte en ligne. Cette somme sera remise à part égale à Terre Fraternité et à l'Association Nationale des Femmes de Militaires. D'ailleurs, si vous souhaitez contribuer, il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour contribuer à cette cagnotte en ligne. Et ce dimanche, d'ailleurs, ce sera également le dernier jour pour profiter du Festival de Livres de Paris. Situé au Grand Palais éphémère en face de la Tour Eiffel, le salon débute aujourd'hui, vendredi 12 avril, et se termine ce dimanche. Au programme des entretiens, des rencontres, des ateliers, mais aussi 330 autrices et auteurs présents sur tout le week-end. L'invité d'honneur de cette édition 2024, c'est le Québec, avec notamment un hommage à Régent Ducharme, un écrivain québécois qui est célèbre dans la littérature québécoise. Parmi les différents stands présents sur place, on y retrouvera les principales avec Albin Michel ou encore Gallimard, mais aussi, et ça c'est intéressant, le stand du ministère des Armées qui proposera pendant 3 jours une offre diversifiée d'ouvrages avec près de 210 références présentes. Pour rappel, ce ministère est le deuxième acteur culturel de l'État. Et on termine, comme d'habitude, par le focus de la semaine. Et cette fois-ci, on va parler de la dernière stratégie de défense nationale du Canada. Ce type de document est quand même assez important pour les gouvernements et les armées. Il fixe en effet les priorités d'investissement militaire, mais aussi les objectifs à atteindre pour les armées. Par exemple, la dernière stratégie de défense nationale française date de 2022, et fixer des ambitions de développement de la France pour l'horizon 2030. Ce lundi 8 avril, donc, le Canada a publié sa nouvelle stratégie de défense, intitulée « Nord fort et libre, une vision renouvelée pour la défense du Canada ». Ce document fait 48 pages. Parmi les annonces marquantes du document, on peut noter une augmentation des dépenses militaires de 8,1 milliards de dollars pour les 5 prochaines années et 73 milliards supplémentaires d'ici 20 ans. 8,1 milliards pour 5 ans, un chiffre impressionnant mais qui reste cependant en dessous des standards de l'OTAN. L'Alliance nécessite en effet que ses membres consacrent au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires, ce qui n'est pas le cas. Qui plus est, la situation de l'armée canadienne est préoccupante. Selon un rapport cité par Radio-Canada, 58% des forces armées canadiennes sont prêtes à répondre à un appel de l'OTAN en cas d'hostilité majeure. Et 45% des équipements réservés à la défense de l'Europe sont considérés comme indisponibles et inutilisables. Dans ce tableau, l'aviation canadienne fait figure de parent pauvre, 55% de ses aéronefs n'étant pas en état de voler. De son côté, la marine royale canadienne n'est pas mieux lotie, 54% de ses navires ne peuvent pas être déployés. Il n'y a que l'armée canadienne qui s'en sort un peu mieux, avec 54% de ses matériels disponibles. Malgré tout, la nouvelle stratégie militaire dévoilée par Ottawa promet d'y remédier. Nous allons continuer de nous assurer que les FAC ont des équipements et des ressources nécessaires pour protéger le Canada, a promis M. Trudeau depuis la base aérienne de Trenton. Ottawa souhaite donc moderniser les équipements et les infrastructures, mais aussi acquérir des technologies dernier cri. Parmi ces derniers, le Canada se positionne sur des avions de détection aérienne avancée, des missiles longue portée ou encore des sous-marins. Vous pourrez retrouver ce document sur le site de la Défense nationale du gouvernement canadien. C'est la fin de ce Flash Éclair. Si ce contenu vous a plu, mettez-nous 5 étoiles et pensez à vous abonner. Actuellement, les jeunes IHEDN, c'est un podcast par semaine minimum, plus tout un tas de contenus présents sur le site de l'association, jeunes-ihedn.org. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau podcast des jeunes IHEDN.